Le Grand Dialogue.
Sigi Gafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumambi.
Chenni Beri. Sigi Gafoba.
Le Grand Dialogue.
Vendredi 10 mars, auditeurs téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce forum de la presse. L'installation des autorités intérimaires à Tombouctou est à Oudeni reportée. Le congrès pour la justice de la Jawad CJA mécontent a investi la ville avec ses hommes. La FEMAFOOT a été dissoute par le ministre des Sports suite à la longue crise du football malien. On en parlera dans cette émission. La célébration du 8 mars au Mali sous le thème autonomisation économique de la femme dans un monde du travail également au menu. Enfin, une autre grève qui pointe du nez, celle des syndicats de la santé. Nos invités pour faire le point de l'actualité de la semaine sont Paul Ben, il est journaliste indépendant, Boubacar Yelkouye, il est du journal Le Pays, Badou Escobar du Carrefour, Mamadou Fofana de l'Indépendant. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Mamadou Ouattara.
Le Grand Dialogue.
Après l'installation des autorités intérimaires à Kidal, Gao et Menaka, et après quelques moments d'incertitude, l'installation des autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudeni a donc été repoussée à une date ultérieure. Certains mouvements armés se sont opposés à la mise en place et ont même brandi la menace en occupant certains points stratégiques de la ville. Paul Ben, Kidal que l'on pensait difficile a été quand même sans problème. Gao, Menaka, malgré quelques difficultés, on a vu quand même l'installation des autorités intérimaires dans ces zones-là. Pourquoi ces deux dernières régions semblent poser beaucoup de problèmes?
Merci, bonsoir d'abord aux auditeurs et aux spectateurs de Studio Tamani. Je crois que Kidal, qu'on pensait être le point le plus chaud, a été vraiment mené de maître par beaucoup de cadres, non seulement du ministère de l'administration territoriale, mais aussi des partenaires du Mali, et même au-delà de certains cadres des régions voisines de Kidal. C'est pourquoi Kidal a été vraiment mise en place, disons les autorités intérimaires ont été mises en place avec beaucoup de satisfaction. Bon, je crois que Tombouctou, on a manqué un peu de tact à Tombouctou. Taoudeni, c'est un peu le bébé de Tombouctou. Si Tombouctou ne marche pas, Taoudeni ne peut pas le faire, puisque à Taoudeni, même on ne peut pas aller mettre les autorités intérimaires. Je disais donc qu'à Tombouctou, ce qui s'est passé, c'est qu'on a manqué un peu de tact. Vous savez, il faut pas se voiler la face, hein, c'est un peu le partage. Nous sommes dans une phase de partage de gâteaux, des dividendes. Donc, à Tombouctou, il fallait intégrer tout le monde. Il fallait que l'État fasse le dos large pour avoir de la place pour tout le monde. C'est ce qu'on a manqué un peu, mais je crois que dans les jours à venir, puisque la CGA, on dit la CGA, bon, je crois que derrière, c'est le MA qui est monté en puissance avec les armes. Je crois que dans les prochains jours, on trouvera une solution d'ici le début de semaine, la semaine prochaine, puisque ils ont un peu libéré les points stratégiques qu'ils occupaient après que la force Barkhane ait montré les muscles, après que les autres groupes armés, c'est-à-dire la CMA et la plateforme, se soient désolidarisés un peu de leur mouvement.
Alors, Boubacar Yelkouye du journal Le Pays, finalement, hein, quelle est la place de l'armée malienne à Tombouctou, puisqu'il a fallu que Barkhane montre des muscles pour que le CGA puisse reculer?
Oui, à ce niveau, tout le monde sait que l'armée malienne n'a pas une force en tant que telle, parce que c'est aussi une partie du Nord et la crise, elle a vraiment eu des impacts aussi négatifs sur Tombouctou. Nous savons également que la PIA, aussi la présence des groupes armés sur place là-bas, comme il l'a si bien dit, le MAA, et puis il y a aussi aujourd'hui cette histoire, ce regroupement CJA aujourd'hui. Mais moi, ce que moi je déplore un peu, tout le monde sait que c'est le partage du gâteau, mais du moment où ce groupement, la CJA qui est là, nous savons tous que la plupart des responsables de la CJA également sont à Bamako ici. J'en connais des députés qui sont membres, d'autres qui sont d'ailleurs même vice-présidents dans le regroupement. Ce qui est déplorable, pourquoi ceux-ci se désolidarisent, puisque la décision de la mise en place des autorités intérimaires, c'est le gouvernement qui est au devant de la chose. Ils ne peuvent pas être membres, ils ne peuvent pas être députés, membres de la convention de la majorité présidentielle et la décision commune qui a été prise à Bamako ici allait contredire cette même décision sur le terrain.
Vous pensez qu'il y a un guise sur
le effectivement, c'est ce que moi je ne comprends pas. Quelque part, ils ne sont pas francs. Avec l'État, ils ne sont pas du tout francs. D'ici, ils n'étaient pas d'accord. Depuis là, ils devaient quand même manifester bien avant vraiment de mettre au propre une décision claire par rapport à la mise en place des autorités intérimaires sur le terrain. Mais au moment où on a fini avec Kidal, on a fini avec Gao, et même s'il y a eu des problèmes au niveau de Gao, on a fini avec Menaka également. Arrivé au niveau de Tombouctou, vraiment, on a vu qu'il y a eu tous ces problèmes-là pour pouvoir vraiment mettre ces autorités en place. Moi, je me dis qu'il y a quelque part certains qui ne sont pas sincères. Même si, réellement, c'est le partage du gâteau, comme il l'a si bien dit. Mais je me dis que, depuis Bamako, ils devraient vraiment montrer leur position par rapport à la situation sur le terrain. S'ils veulent aussi avoir leur part, qu'ils le disent ici. Mais ils peuvent, pourquoi attendre qu'on arrive sur le terrain et aller mettre en cause la décision du gouvernement? Donc moi, je me dis que vraiment, leur position, je ne la partage pas.
Merci Mamadou Fofana de l'Indépendant. Manifestement, ceci pose le problème de l'intégration des nouveaux groupes qui se sont créés après la signature de l'accord, notamment le Congrès pour la justice de l'Azawad qui fait partie de ces derniers nés. Mais il y a le MSA par exemple qui a été pris en compte vraiment dans l'installation des autorités intérimaires à Menaka. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver le rouage nécessaire pour pouvoir les inclure aussi?
Bon, je crois que dans tous les cas, comme a dit Paul et Yalkoué, c'est le partage du gâteau, mais moi je crains que ce ne soit le partage du Mali que certains entrevoient. Parce que quand on voit ces positionnements, c'est-à-dire si c'est pour être là pour 12 mois, moi je crois que franchement, ça vaut pas la peine.
Est-ce que ça va aller jusqu'à 12 mois? Parce que si on a les élections bien avant, qu'est-ce qui va se passer?
On suppose maximum 12 mois. Donc, moi, je crois que certains ont d'autres agendas. C'est-à-dire, c'est le partage du Nord. Donc, il faut être là. Bon, donc, je crois que le gouvernement doit gérer. Parce que c'est une question d'épreuve de force. L'État malien étant ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est pas un procès. La situation est très difficile pour tout le monde et je crois que l'État doit aussi, avec tact, gérer cette situation. Parce que tout le monde a vu, moi je crois, bon, par exemple Kidal, contrairement à ce que c'est dit, je crois que Kidal, on ne devait pas avoir beaucoup de difficultés à Kidal. Bon, mais je crois quand même que condamné, franchement, moi je suis un peu satisfait que on puisse peut-être, c'est parce que cette crise-là va peut-être permettre aussi de résoudre de manière plus ou moins définitive cette situation. C'est-à-dire la crise va, cette mini-crise, je suppose, est un grand pas peut-être vers la résolution de cette de la crise qu'on vit au nord, dans le nord du pays. Bon, les groupes qui se créent, je crois que, comme j'ai dit, c'est une
justement, s'il y en a d'autres aujourd'hui après ce partage.
Mais s'il y en a d'autres, moi j'ai dit, ça dit un gouvernement, il faut jouer aux pompiers, ça, personne. Donc je crois qu'il faut, on n'a pas le choix. Il faut être flexible. Franchement, on n'a pas le choix. Moi je crois que tout le monde doit comprendre que c'est un jeu difficile et qu'il faut, on a dit, sont mal intentionnés, sont bon, franchement, on a dépassé tout cela. Je crois que avec l'accord pour la paix et la réconciliation, il faut qu'on y aille.
Mais pour la création, je voulais tout juste ajouter quelque chose pour la création, par rapport à la création de nouveaux groupes armés. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, à l'approche des élections municipales, législatives ou présidentielles, on assiste aussi à la création de nouveaux partis politiques. Donc vraiment, n'en faisons pas vraiment un cas spécial pour le Nord. La démocratie veut aussi que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'on se désolidarise, qu'on crée un groupe pour d'autres idées. Depuis 2012, nous sommes dans des rivalités idéologiques et souvent partisanes et d'intérêt. Et c'est aussi la politique.
Je vous suggère on va laisser Badou réagir très rapidement. Badou Escoba, est-ce que c'était normal, après la signature de l'accord de paix, que certains brandissent encore la menace de l'arme à Tombouctou, des armes à Tombouctou?
L'accord de paix, c'est comme un tonneau de Danaïde. Vous mettez du sable là-dedans, mais vous n'atteignez jamais la surface. C'est un peu ça. Vous savez que en réalité, c'est un partage de gâteau qui ne dit pas son nom. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est que ceux qui ont signé cet accord, les groupes armés, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir plus, ils créent d'autres embranchements. C'est le cas du Congrès pour la justice dans l'Azawad. C'est le MAA, tout le monde sait. Il y a la plateforme.
Il s'est même perdu.
La coordination des mouvements de forces patriotiques de réseau, les MSA, etc., etc. Donc leur objectif, c'est quoi? C'est de se positionner. Par exemple, pour le cas spécifique de Taoudéni, il y a quelqu'un qui a déjà été nommé par le gouvernement, n'est-ce pas? Amoudi Agada, il a été nommé par le gouvernement. Et le MAA, qui s'est déguisé en CGA, a dit qu'il n'est pas d'accord. La plateforme dit qu'elle n'est pas d'accord. Et ils font une épreuve de force. Le Congrès pour la justice de l'Azawad prend des hommes remplis des pick-up, une trentaine de pick-up, viennent aux alentours de la ville, placent la ville en état de siège pour dire, bon, voilà, c'est ça ma revendication. Il faut que ma revendication soit prise en compte.
Est-ce que après la signature de l'accord de paix, justement, il faut encore assister à des scènes où des hommes de n'importe quel groupe brandissent la menace des armes?
On assistera toujours à ce genre de menaces. Je prends l'exemple de la CEPA. L'autre jour, la CEPA a organisé des manœuvres militaires à une trentaine de la ville pour faire une démonstration de force. Mais moi, je me demande où se trouve l'amunissement, où se trouve Barkhane, où se trouve l'armée régulière. Des bandits viennent, ils essaient de rentrer dans la ville. Qu'est-ce que les militaires font? Ils abandonnent. Ça veut dire que les villes du Nord sont dans l'ensemble en état de chaise. Ça veut dire que Barkhane ne joue pas son rôle. Ça veut dire que l'amunissement ne joue pas son rôle. On a vu Bambari en Centrafrique, le cas de Bambari. Quand les groupes armés ont voulu pénétrer dans la ville, l'amunissement a tout de suite réagi. Le rôle de l'amunissement, c'était de désarmer ces gens immédiatement. De prendre les pick-up, de prendre leurs armes. Parce que le Mali n'est plus un état. Le pays n'existe pas. Le Mali est en train de se libaniser. Le Mali est en train de devenir la Somalie de l'Afrique occidentale. Le Mali est devenu la Somalie. Il n'y a que des enclaves de territoire, au centre et au nord. Il n'y a plus d'État. L'État ne contrôle plus le nord. L'État ne contrôle plus le centre du pays. Le Mali est en état de siège. Bamako et ses environs. À part Bamako et ses environs, le pouvoir central ne contrôle plus. Il ne faut pas se voiler la face. Le pays est menacé. C'est l'existence même du Mali en tant qu'État qui est menacée. Le Mali est devenu l'homme malade de la communauté internationale.
Il y a le Kouya qui voulait réagir. Vous partagez cette analyse?
Moi, ce qui est malheureux dans tout ça, moi je me dis que bon, Paul veut vraiment que l'État soit flexible. Je suis d'accord avec ce principe, mais je me dis qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'on prenne, qu'un État prenne ses responsabilités. Nous sommes devant une situation sensible. Une fois qu'il y a un programme qui est calé, il y a une décision qui est prise par rapport à l'avancement de la sortie du processus de sortie des crises, il faut vraiment respecter cela. Et on doit être ferme par rapport à l'exécution de cette décision. Mais à chaque fois, s'il y a certains qui se désolidarisent, ils créent un groupe à côté, on est obligé de les inclure. Quand est-ce que nous allons finir avec? Du moment où déjà nous-mêmes, on sait que c'est un partage du gâteau, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas pour vision le Mali. Il faut être clair. Et compétent, est-ce qu'on peut espérer sur ces gens-là pour le développement du Nord? Il faut se poser aussi la question. Il faut se poser la question. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir un peu les choses...
Paul Ben qui voulait réagir depuis tout à l'heure. Mais finalement, parlons de la sécurisation également de ces autorités intérimaires. On voit que le MOC n'est pas opérationnel. Il est ni opérationnel à Menaka, ni à Kidal. À Gao, timidement. Alors, la sécurisation des autorités intérimaires, finalement, dans les régions où cela a pu être installé, quand même...
Oui, Menaka n'est pas... Pour le moment, Menaka n'est pas pris en compte dans le MOC. Mais je crois que ça va se faire...
Justement, comment on a parlé de du MOC qui devrait sécuriser ses autorités.
Ça va se faire avec la force des choses, parce que Menaka, de toutes les façons, Menaka c'est la région voisine de Gao, c'est à 300 bornes de Gao, donc avec la force des choses, ça va se faire, parce que Menaka n'a pas d'effectif pour sécuriser les autorités intérimaires. Ça va se faire. Et maintenant, dans les régions comme Kidal, où il y a encore... cette tension qui est résiduelle, je crois que les autorités vont prendre les choses en main pour essayer de... Parce que, bon, vous savez...
Comment voyez-vous le MOC à Kidal?
Le MOC à Kidal, mais le MOC à Kidal, il se fera avec la force des choses. Parce que, vous savez, Actuellement, Kidal, c'est vrai, après la mise en place des autorités intérimaires.
Kidal nous a donné quand même un bel exemple avec
l'installation. Oui, mais, ça c'est la partie visible de l'iceberg qu'on a vu à la télé et qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mais bon, en dessous, ça boue toujours, ça continue à bouillir. Jusqu'à présent, rien n'a changé, par exemple, dans le visage de la ville. Moi, j'y étais, j'ai vu, j'ai entendu des choses. Je crois qu'il faut venir petit à petit, il faut amener petit à petit les gens à accepter la mise en place des autorités intérimaires, le MOC et d'autres choses. Il faut jouer avec la carotte et le bâton. Ça, il faut le faire.
Merci Paul Ben. On prend quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. Parlons à présent de la dissolution de la FEMA Foot. On sait que une crise mine le monde du football malien depuis environ 3 ans. Le ministre Ousseyn Niamh-Yanguindo, ministre des Sports, a finalement décidé de dissoudre la Fédération malienne de football. Badou Escoba, elle était justifiée cette décision finalement après 3 ans de crise?
Cette décision était justifiée. Pourquoi? Parce que les uns et les autres n'arrivaient pas à s'entendre. Baba, et son nom c'est Baba, non? Je crois le président de la FEMA Foot.
Baba.
Parce que moi, en matière de football, je ne suis pas un fan du football. Mais je sais quand même que depuis 3 ans, il y a une crise. Si vous voyez que la crise vous trouvez que la crise ne trouve pas une issue. Je pense que le moins que vous puissiez faire, c'est de démissionner. On a vu le cas de Niambele. Quand les choses n'ont pas marché, Niambele a démissionné. Donc, cette dissolution, elle est la bienvenue. C'est quelque chose qui a salué. Je crois que ce serait le lieu pour dire à l'État malien, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Si l'État prend ses responsabilités, de telles choses n'arriveront pas. Ce n'est pas pour aller du coq à l'âne. Au Sénégal, une fois les policiers ont grévé, ils ont grévé. Abdou Diouf a dit, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Il a dit toute la police nationale. Il a amené de nouveaux policiers. À la fin du mandat de Mathieu Kérékou, quand il a vu que les magistrats sont corrompus, sont pourris, il a amené une enquête discrète. Et 85 magistrats ont été licenciés. Et lorsque Yahi Boni est venu, les magistrats sont partis voir Yahi. Yahi a dit que l'administration est une continue. Donc, il faut des décisions fortes. Il faut qu'on sente que l'État est en train de se ressaisir. Un État doit être fort. Un État doit prendre des décisions courageuses.
Le ministre a eu raison de dissoudre la FEMA.
Le ministre a eu raison de dissoudre la fédération. Parce que le football était notre seul moyen de consolation. Dans un pays en guerre, dans un pays où ça ne va pas, on avait 90 minutes pour souffler un peu. Et ces 90 minutes, on les a perdues. Donc, ce que le ministre a fait ne peut être que salutaire. Moi, je suis neutre, je ne suis pas un footballeur, mais je dis ce que je pense, je dis mon opinion. Donc, dans un pays, il faut que l'État s'assume, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Si l'État avait pris ses responsabilités dès le départ, ces histoires de coordination, de justice, de quoi, de l'Azawa n'allaient pas se faire. Il faut que l'État soit fort, il faut que l'État prenne ses responsabilités, frappe fort.
Mamadou Fofana, de l'Indépendant.
Moi, comme Badou vient de le dire, moi aussi, je ne suis pas, quand même, je suis pas partisan dans cette crise. Mais je pense que
cette crise qui avait d'ailleurs divisé les journalistes.
Oui, non, bien sûr, la presse.
Pas que les journalistes.
Je crois que, ouais. Donc, je crois que cette crise, je crois que la sanction ou la décision du ministre vient un peu, pour moi, un peu en retard. Parce que c'est à 6 mois quand même de la fin du mandat de l'actuel comité exécutif. Et puis, les Maliens s'attendaient depuis longtemps à ce que la FEMA Foot soit dissoute. Je crois que on pense après les visites du ministre à Zurich et à Genève, je crois. Je crois qu'après ça, les Maliens s'attendaient à ce que des décisions soient prises. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et maintenant, à 6 mois, et puis encore, ce qui est l'événement, c'est la lettre de la sanction et de la FIFA. Avant ce soir, que le ministre revienne sur sa décision. Bon, là, je crois que nous sommes quand même, nous sommes dans le chaos total, on ne sait pas, je ne sais pas.
C'est ce qui m'énerve toujours. Vous savez, la Fédération malienne de football n'a jamais été à l'image du football malien. Je prends pour exemple, cette année, ou bien depuis la fin de l'année dernière, on nous a annoncé avec joie que toutes les équipes nationales, toutes les catégories se sont qualifiées pour les phases finales des différentes coupes. Voilà, minime, cadet, junior. Ça c'est inédit. Mais quand vous regardez la fédération malienne, elle est en lambeaux. c'est des querelles intestines, c'est des querelles de pouvoir, c'est ceci, c'est là. Moi, le président de la FEMAVOT, si je ne m'abuse, si je vois son profil, je crois que c'est un militaire.
Un policier.
Un policier. Mais qu'est-ce qu'il va se taper le dos dans le football? Mais qu'il reste policier, là. Qu'il nous conseille en matière de sécurité. S'il est parti se cacher à la FEMAVOT, excusez-moi, je l'ai toujours dit. Quand vous voyez un militaire quitter les rangs pour aller se cacher à la FEMAVOT, c'est parce qu'il ne connaît pas son travail. Qu'il reste à la police. C'est pourquoi le football ne marche pas. Et moi, je crois que le ministre l'a fait. Mais maintenant, ce qui m'énerve, c'est l'attitude de la FIFA. Nous sommes en train de couler.
Mais la FIFA est dans son rôle.
La FIFA est dans son rôle.
Non-ingérence des politiques.
Justement, moi, ces textes sont désuets. Ces textes, vraiment, ils ne valent plus la peine parce que.
C'est comme si
un pays veut lutter contre la corruption et que le FMI vienne nous dire que non, ce monsieur-là, vraiment, il faut le garder à sa place. Vous comprenez un peu? On est dans une crise. On est un pays souverain, on veut prendre des décisions pour régler nos problèmes, et la FIFA vient nous dire que non, il faut laisser continuer ce monsieur pour qu'on continue dans la crise. Mais franchement, il faut taper du poing sur la table.
Boubacar Yalkoui, j'espère que vous allez défendre un tout petit peu la FEMAVOT au moins.
Non, bon, au fait, moi je ne suis pour, j'ai pas de parti pris, mais moi je pense que y a un autre angle qu'il faut voir dans cette crise-là, c'est surtout l'angle politique. L'angle politique en ce sens que la situation, comme vous l'avez si bien dit, le ministre a eu plusieurs occasions et idoines pour en finir avec cette histoire. Mais il ne l'a pas fait. Le fait d'attendre qu'on arrive jusqu'à ce niveau, comme le doyen l'a si bien dit, pour dissoudre, je pense que sa décision, elle est arrivée trop en retard. Et cela est aussi également dit à quoi toujours, hein, non, ce n'est pas la FIFA qui l'a bloqué. Ce n'est pas ça.
Comme la FIFA demande avant telle heure de revenir sur la décision.
Non, que la FIFA a toujours bloqué. Ils ont eu à faire beaucoup de démarches, plusieurs tractations. Nous avons vu que même après les voyages, il y a eu des rencontres avec des personnes de ressources pour résoudre un peu le problème. Mais tout ça, ça n'a pas marché. Moi, je me dis qu'à un moment donné, et selon même des informations, il y a très longtemps, le ministre voulait dissoudre la Fédération malienne de football. Il y a des mois de cela. Mais il y a eu des interventions politiques. Il y a des politiques qui ont intervenu et raison pour laquelle il n'a pas pris cette décision. Donc, ça sous-entend qu'il n'est pas maître même de ses propres décisions au niveau du département. Et moi, c'est ce qui est d'ailleurs malheureux. Puisque je me dis que quand on te donne un département à gérer, et qu'il y a des crises au niveau de ce département, on doit te laisser aussi les mains libres pour gérer le problème. C'est un peu ça. Aujourd'hui, à un moment donné, il a voulu prendre des décisions, ils n'ont pas accepté. Et quand ils ont vu que la situation est pourrie, c'est en ce moment qu'ils font une concertation entre eux. Bon, voilà, le ministre sort et puis il dit qu'il a dissous le truc. C'est que lui, il oublie aussi également.
Moi, je veux poser la question. Qu'est-ce que vaut une décision du ministre, même si elle est un an à l'avance? Qu'est-ce qui vaut cette décision si la FIFA va la rejeter?
Mamadou Fofana, quelles sont les sanctions auxquelles aujourd'hui le pays s'expose, hein?
Bon, la sanction, je crois que c'est la FIFA qui pourra dire. Mais je crois qu'il y a deux principes pour la FIFA.
Mais vous pensez qu'il y aura sanctions?
Non, moi je crains que le Mali ne perde la face. Parce que dans cette crise-là, déjà, je vois le gouvernement, je vois le Mali perdre la face. Parce qu'en réalité,
le Mali perd la face. Vous pensez que la décision va être annulée?
La FIFA est supranationale. Elle s'impose dans ce domaine précis. Donc, je comprends les Maliens. On dit on est un pays souverain. Non, mais le foot est géré par la FIFA. Donc, moi, je pense qu'on parle même d'un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui. Je ne sais pas quel est l'objet. Mais je crois quand même s'il y a un ultimatum de la FIFA, le gouvernement se doit de réagir rapidement pour ne pas perdre encore la face. Je crois, donc, dans cette crise, moi, je pense que le pouvoir, le gouvernement va perdre la face. Et peut-être même que le ministre, s'il arrivait que le gouvernement perd la face dans cette crise, ça veut dire que le ministre va démissionner.
Non, forcément, nous ont même entraîné dans cette situation, c'est ce que je disais. Ce sont ces politiques qui nous ont entraîné dans cette situation. Puisque il y a quand même la partie la plus forte qui soutenait le monsieur, raison pour laquelle il a tenu jusqu'à là où nous sommes. Raison pour laquelle, à l'époque, le ministre n'a pas pu vraiment dissoudre la FEMAVOT. Aujourd'hui, comme ils se sont entendus, il a pris la décision, il ne faudrait pas que lui aussi qu'il voit
que cela n'ait pas des répercussions sur lui, sa carrière politique. Moi, je me dis que au moment où, dans le temps, il a essayé de démissionner, de dissoudre le truc, ils ont refusé. C'est en ce moment, il devait prendre ses responsabilités et partir.
Moi, j'aimerais bien entendre Badou. Badou Escobar, j'ai une question à vous poser. Oui. C'est les esprits s'échauffent énormément avec le football qui est très très passionnel. Alors, on a vu que des scènes de violence commençaient à entrer en jeu entre les différents protagonistes. Si mort d'homme il y a, je ne le souhaite pas, est-ce que c'est la FIFA qui va venir gérer ça pour
nous? Ce n'est pas la FIFA qui va gérer, c'est l'État malien qui va gérer. C'est la responsabilité de l'État malien. Encore une fois, cette crise prouve à quel point ça ne va pas au niveau du pouvoir. Il y a un cancer qui est là, il y a un cancer qui est là, il y a une gangrène qui est là, qui est en train de se propager dans le corps physique du Mali. Ça, il faut le dire. Oui, et le jour de la finale, le président de la République, il était au stade et il y avait des injures. Les gens étaient là, s'insultaient père et mère. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise profond qui est là. Bon, pour ce qui est du problème de la FIFA, j'ai appris, je ne suis pas footballeur, j'ai appris quand même que le ministre a déjà commis un avocat pour défendre les intérêts des avocats, peut-être pour défendre les intérêts du Mali en cas de cas.
Merci. On va aller vers le prochain thème. Le Mali, à l'instar du reste du monde, a célébré le 8 mars avec le thème « L'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution ». Paul Ben, est-ce qu'on peut dire, hein, sans risque de se tromper, que la femme malienne est économiquement autonome déjà?
Non, excusez-moi.
Ça vous fait rire.
Ça me fait rire. La femme malienne est loin d'être autonome financièrement. Ça, c'est... Vous savez, les slogans qu'on prend souvent lors des manifestations de ce genre me font souvent rire parce que, bon, écoutez, les politiques sont dans leur rôle, hein. Ils sont dans leur rôle. Le Malien en général n'est pas financièrement autonome, à plus forte raison les femmes. Moi, je crois que c'était un thème qu'ils ont pris comme ça.
C'était un thème central pour tous les pays du monde, hein, en fait.
Mais nous, on pouvait prendre un sous-thème.
Non, est-ce que vous pensez que la question doit se poser, hein, au Mali? Est-ce que il faut travailler de telle sorte que les femmes soient économiquement autonomes?
Il faut qu'on travaille, il faut que le gouvernement du Mali, il faut que les Maliens travaillent à ce que tous les Maliens soient économiquement autonomes. Et pour cela, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de possibilités. Nous avons une kyrielle de structures administratives qui ont été créées pour cela. Malheureusement, ils ne font rien. Nous avons un ministère de l'emploi et de la formation professionnelle que j'ai toujours critiqué, qui ne fait que donner des chiffres comme ils le veulent. Des chiffres bidons, des faux chiffres, mais on ne voit rien dans le concrètement. Moi qui suis à 1600 km de Bamako le plus souvent, franchement, c'est la galère. Or, il y a des potentialités qui sont là. Mais on se cantonne, je ne sais pas combien de kilomètres carrés fait Bamako, mais on se cantonne à ça, malheureusement. Donc il faut qu'on travaille à ce que le Mali en général soit financièrement autonome. Les jeunes viendront, les femmes viendront, les vieux viendront.
Merci Paul Ben. Boubacar Yalkouya, est-ce qu'on peut parler de droits de la femme au Mali? Est-ce que les droits de la femme sont respectés dans notre pays?
Oui, moi je dirais que elles sont respectées, mais on continue à faire quand même de l'amélioration dans cette vision en fonction des revendications ou des doléances des femmes. Et aujourd'hui, ce thème, l'autonomisation des femmes, moi je me dis que pratiquement
économique
des femmes, moi je me dis que ce sont des décisions qui viennent d'ailleurs. Nous, on se limite seulement à les appliquer. Du moment où ce sont ces mêmes partenaires, ces grandes puissances qui décident tout là-bas, et ce sont elles également qui ont décidé de mettre vraiment les femmes aujourd'hui dans ce cadre-là. Et maintenant, les thèmes, on les envoie dans les pays. Donc, les pays africains aussi, nous sommes obligés de respecter, même quand vous essayez de voir un peu par rapport à leur histoire de quota de 30%. Et moi, je sais également que ce sont des décisions...
quota qui n'est pas respecté, hein, même au sein de l'Assemblée nationale.
Non, mais c'est en termes aussi de compétences. On ne te donne pas comme ça. On te dit le quota, c'est 30%, mais il faut... C'est un mérite aussi, hein. Lève-toi pour l'arracher. C'est un D'accord. peu ça. Mais Merci. Quand tu ne fais rien, tu veux qu'on te la donne comme ça.
Merci.
C'est pas facile.
Quelques secondes de pause, nous reviendrons parler du 8 mars.
Une réaction un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester connecté. Vous suivez le forum de la presse. Alors, Mamadou Fofana de l'Indépendant, finalement, quand on parle de représentativité de femmes, des femmes dans les instances de décision, il y a quand même une amélioration. Hein, quand on a vu une femme pour la première fois au Mali devenir Premier ministre hein, sous le président Amadou Toumani Touré.
Bon. Je pense que c'est pas le meilleur exemple quand même. Hein. C'est quand même, même si c'est au sommet, quand même, moi, ça c'est pas le meilleur exemple pour moi, franchement.
Et on a une femme gouverneur non, hein, pour la non, deuxième non, non, fois, bon, hein, amicale.
Non, franchement, moi je crois que c'est pas ça. Non. Je pense que en réalité, les femmes, moi je pense qu'il faut pas les infantiliser quoi, en réalité. Parce que les dames, elles ont fait les mêmes études que les hommes, que nous. Non. Vraiment, s'il y a le mérite, un mérite égal, vraiment, je crois qu'il n'y a aucun problème. Mais dire seulement qui sont de côte à côte là, franchement, ça revient à, je crois, encourager souvent la médiocrité, quoi.
Et le conservatisme, surtout.
Moi, il y a une chose qui m'a interpellé, hein, Mamadou Fofana, c'est qu'on a connu des dames candidates aux élections présidentielles et les femmes qui représentent la majorité de la population n'ont pas voté pour
non, mais elles ont raison, comment parce qu'en réalité, vous parlez, je ne vais pas citer de nom, mais quand même, on a eu des candidates vraiment qui, excusez-moi, mais qui, ça ne vaut pas la peine, pratiquement. Candidate pour être... Non, c'est pour avoir un strapotin à la fin de l'élection. Donc je crois que c'est ça. Sinon, bon, ça c'est du folklore. Moi je crois que franchement, je salue, je me réjouis si une femme vraiment est nommée à un poste. Vraiment, je sais qu'elle est compétente. Mais si c'est pour... Parce qu'il faut 30%, un quota de 30%, parce que des concepts qui nous vient de l'extérieur, on veut nous imposer ça. Pourquoi pas les femmes 50%? Quand tu prends le corps médical dans certains pays, mais 80%, c'est les dames. Moi, je suis très fier. Quand tu vas faire une injection, tu vas faire tout dans certains pays, que je cite par exemple la Russie. Quand tu viens, mais le corps, l'enseignement, mais c'est les dames. C'est à 80-70%. Quand tu viens à l'hôpital, mais tout le monde, c'est 80-85%. Donc vraiment, mais quoi, c'est des gens qualifiés. Donc ici, on ne pense pas femmes.
Il y a aussi un problème de qualification. Hein? Badou Escobar.
Quand on parle des femmes, moi je parle des femmes du milieu rural. C'est eux qui travaillent. Et selon la vision africaine, selon la vision soudanaise, la femme a toujours travaillé. Elle est la première à se réveiller, elle est la dernière à se réveiller. Elle est la dernière à se coucher. La femme maline a toujours été autonome. Parce que le petit soir, elle va, elle entretient son jardin potager, elle fait le condiment, l'homme amène le céréal. C'est ce que nous avons connu. Mais c'est l'Occident qui a amené une autre vision, et cette vision est en train d'être instrumentalisée par certaines dames déguisées en développeurs. Elles sont là, elles croquent les sous des femmes rurales, elles se disent émancipation de la femme. Émancipée. La femme rurale est émancipée, mais le problème c'est que ce sont certaines dames qui sont à Bamako ici, qui sont en train de bouffer.
Oui, est-ce que cette femme rurale est économiquement autonome?
Elle est économiquement autonome. Mais dans certains milieux ruraux, c'est la femme qui nourrit l'homme. C'est la femme qu'elle part au champ depuis 6h du matin. Elle revient le petit soir, elle prépare, etc. etc. Donc, vous m'excusez, je vais terminer tout de suite. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous imposer la vision de l'Occident. La vision de l'Occident, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que la femme est une esclave, la femme est soumise à ceci et cela. Donc, je le répète encore une fois, il y a certaines dames déguisées en développeurs à Bamako ici qui sont en train de bouffer la part des femmes rurales. Il faut que les femmes rurales se réveillent. Il faut qu'elles se réveillent.
Je voulais juste prendre sur ce chapitre, je vais faire une anecdote. Moi, j'ai connu le projet qu'on appelle Amader, hein, l'électrification rurale en son temps. Les gestionnaires de certains milieux, en milieu rural, les gestionnaires femmes étaient les meilleurs gestionnaires. Je vous dis, hein, les meilleurs gestionnaires. Et quand l'homme s'y mettait, c'était la catastrophe. Merci. Et ça, je l'ai vu.
Merci, Paul Ben. On va parler du dernier thème, la grève de la santé. C'est le service minimum qui est assuré dans les différents hôpitaux et centres de santé du Mali. Les agents de la santé, de l'action sociale, sont en grève illimitée depuis déjà deux jours. Quelles sont les conséquences de cette grève hein, sur les Maliens, Boakar Yalkouyé du pays?
Oui, comme vous l'avez déjà dit, Tout est aussi lié à la santé. Tout est lié à la santé. Si aujourd'hui ce secteur a des problèmes, ça paralyse également le Mali. Nous avons fait le constat aujourd'hui au niveau des centres de santé. Et moi, je me dis que à ce niveau aussi, le gouvernement n'a pas été vraiment rationnel dans le traitement quand même du dossier. Puis du moment où déjà il y avait eu un terrain d'entente depuis novembre 2016, si je ne me trompe pas, et que quelques mois après, qu'on voit que vraiment l'État décide de revenir sur ce qui a été convenu entre les deux, je trouve vraiment que c'est malheureux. Et c'est ce qui nous amène dans ce truc. Ce n'est pas seulement le secteur de la santé. Nous avons vu que même les enseignants, les syndicats des enseignants sont décidés, sont prêts à partir du lundi, tout prêt, pour 2 semaines de grève. Donc je me dis que c'est pratiquement partout. Pratiquement partout.
Et les enseignants dans les régions nord sont en grève
limitée. Ils sont en grève limitée et illimitée. Aujourd'hui, ce sont les anciens. Nous avons vu que les magistrats étaient en grève il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je me dis aujourd'hui que vraiment, il est temps que l'État ouvre les yeux. Qu'il sache que ces doléances-là, ce n'est pas comme si vraiment... Même si l'État ne peut pas satisfaire toutes les doléances, au moins qu'elle arrive quand même à mettre les gens dans les minimums de conditions pour que partout, on n'ait pas des problèmes comme ça. Ce n'est même pas bon, puisque nous sommes dans une crise et ces grèves par-ci, par-là, encore ça envenime davantage la situation.
Merci beaucoup, Ariel Kouye. Mamadou Fofana de l'Indépendant, comment expliquez-vous tous ces mouvements de grève? On a vu les magistrats qui étaient en grève, les enseignants au niveau de Bamako qui repartent en grève, qui sont d'ailleurs en grève dans la région nord. Comment expliquer tous ces mouvements de grève aujourd'hui?
Bon,
est-ce que ces problèmes
les grèves sont pas moi la grève des magistrats, je pense pas que ça soit la même chose que la grève des médecins. Pour moi, on était sur ce même tableau. Moi, je suis très solidaire de la grève des médecins et c'est même pas des médecins, de la grève du personnel de santé, de l'action sociale, parce qu'il y a 3 ministères qui sont concernés, le ministère de la santé, le ministère de la promotion de la femme, l'enfant et la famille et le ministère de l'action humanitaire. Donc normalement, c'est 3 départements ministériels qui sont en grève. Et les conséquences, tout de suite, il y a un ouvrier qui a eu un doigt tranché. Donc, il y a quelques jours, il devait faire ses soins aujourd'hui. Il vient du CESCOM. On lui a dit non, il n'y a pas de boulot. Tout de suite.
Le service minimum est assuré.
Non. Mais service minimum, ça veut dire quoi? Vous pensez que le service minimum, c'est les soins? Non. Le service minimum, c'est l'administration. Quand on vous parle du service minimum, ne croyez pas que... Non. Ne croyez pas que tu vas trouver 2-3 infirmiers qui vont travailler. Non. Le service minimum, quand on regarde... C'est l'administration, c'est le personnel administratif souvent, le directeur, son adjoint, les chefs de division souvent, c'est ça. Donc hier quand même on disait que la grève était suivie à plus de 90%. Hein, quand j'ai causé avec un représentant du syndicat, à l'intérêt c'est à l'échelle du pays. Donc maintenant vous demandez comment expliquer la grève. Il y a une chose, hein, c'est la mauvaise gouvernance. Parce qu'en réalité, vous savez, les populations regardent les dirigeants. Comme a dit il n'y a pas longtemps, mon journal, on disait quand même que... Hein,
Est-ce que le gouvernement peut augmenter les salaires aujourd'hui?
Non, c'est pas question de... Il y a quelque chose de confiance. Parce que les Maliens n'ont pas confiance à l'équipe dirigeante, en réalité. C'est question de confiance. La confiance, c'est quoi? Je vais dire quoi? Quand vous voyez que se trinque, alors que vraiment... La population crime, franchement, c'est quoi? Et regardez le train de vie de l'État. Quand le président de la République venait, je ne suis pas un homme politique, mais je rappelle seulement, quand le président de la République venait, il a dit dans son « Je veux lutter contre la corruption, contre la délinquance financière, contre le népotisme, tout. » Mais on est à combien de mois de la fin du mandat? Mais il n'y a rien de tout cela. Et la population voit les gros cylindres, papa, ça va dans tous les sens. Quand il y a une réception, il venait compter. Ça fait 50 millions. Maintenant, un médecin qui est à Ménaka, par exemple, chez toi là-bas, maintenant, qui demande 100 000 francs d'indemnité. Un magistrat qui est sous climatiseur à Bamako, qui demande 250 000 francs, je ne sais pas, ou 500 000 francs d'indemnité. On est tenté d'accorder au magistrat ces 500 000 francs. L'autre, le médecin qui soigne à 1600 km, on ne veut pas lui donner 100 000 francs.
D'accord.
Ils ont peur de la justice, ils ne font pas du bien, c'est tout.
D'accord. Badou Escoba, est-ce que vous êtes de l'avis de M. Fofana? Est-ce que l'État est en train de vie élevée au Mali?
Je suis d'accord avec lui quelque part, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que la situation du Mali aujourd'hui est très compliquée. l'État, c'est-à-dire l'État malien est en train de disparaître petit à petit. Moi, je pense que les uns et les autres doivent se ressaisir, prendre les responsabilités, que si l'État signe un pacte social avec les syndicats, que l'État n'ait pas peur des magistrats, que l'État signe un pacte social, que l'État fasse comprendre aux uns aux autres que ça ne va pas.
Alors, qu'est-ce que ce pacte social doit dire,
hein? Ce pacte social doit dire une trêve d'abord.
Non, mais ça ne va pas comment? Non, milliards sont en train de prendre votre destination et puis tu dis que ça ne va pas.
Je viens, si vous me laissez, permettez-moi de parler. Je viens, le train est en marche, la locomotive est en train de marcher.
On laisse Badou terminer.
Je suis un rouleau compresseur, laissez-moi parler, j'arrive.
Allez-y.
Que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État mette d'abord les militaires dans les conditions qui sécurisent l'ensemble du pays. Là, les uns et les autres peuvent continuer leur grève. Et la cophonie de l'État qui m'a beaucoup fait mal, c'est dernièrement ce que l'État a fait à certains dignitaires religieux. Il paraît que l'État aurait payé des 4x4 flambants neufs pour leur donner ça. Peut-être l'actuel président veut avoir un second mandat. Il compte sur le soutien des religieux. C'est vrai, nous avons beaucoup de respect pour les religieux. C'est eux qui vraiment moralisent la vie publique, c'est eux qui jouent le rôle de régularité dans notre société. Mais quand on voit tout ça, les médecins ont raison. Les médecins ont raison d'aller en grève. Sinon, la situation du pays.
Et les enseignants, hein,
les enseignants
qui
doivent aller
prochaine.
En grève, ils disent 276 heures. Donc il faut avoir pitié de ceux qui restent de ce pays-là, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Que les uns et les autres se ressaisissent. Qu'on mette les militaires dans les conditions, qu'on leur donne des berdems, des chars, des avions, qu'ils aillent nettoyer le reste du territoire, et après on va continuer avec nos grèves et nos revendications. C'est mon point de vue.
Il y a d'autres aspects qui ne sont pas pécuniaires. Hein. Il y a d'autres aspects qui ne sont pas pécuniaires. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des irrégularisations, il y a plein de trucs. Oui. Ça dit, le malheur est que quand vous envisagez d'aller en grève, vous déposez un préavis, on crée une commission pour vous. Et puis on signe des trucs.
Une commission
après,
de conciliation. Là,
ouais, de conciliation. Donc après, le gouvernement oublie ses engagements.
Et c'est ça.
Joue au Bamako. C'est ça.
Mais Paul Ben, avant de parler justement de leurs droits, est-ce que les fonctionnaires maliens assument pleinement leurs devoirs?
Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La conscience professionnelle, elle manque beaucoup. Elle manque beaucoup, mais c'est aussi la faute de l'État. Hein. Quand moi j'investis pour que vous soyez fonctionnaire, si vous fautez, je vous punis. Je ne vous laisse pas. Je ne fais pas le favoritisme, le népotisme, le laisser aller. C'est l'État qui favorise tout ça. Moi, j'ai toujours dit, la fonction publique, c'est une machine à fabriquer les voleurs et les paresseux. C'est ça la fonction publique. Parce que dans le privé, au Mali, bien sûr. Parce que le privé, au privé, ça ne pardonne pas. C'est le résultat. C'est ça. Et c'est l'État. On revient toujours à l'État. On dit que oui, il ne faut pas tout laisser. Non, ça, c'est l'État. C'est pourquoi.
Boubacar Yalkouye du pays, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a vraiment les moyens d'augmenter les salaires?
Oui, moi, je trouve que même si l'État ne peut pas satisfaire à 100% les doléances, mais il doit quand même montrer la bonne foi d'accompagner vraiment les syndicats de ces différents secteurs. Et je me dis également que l'État a en partie les moyens d'accompagner ces gens, de les soutenir, comme le doyen l'a si bien dit. Tout n'est pas seulement lié à l'argent, hein. Il y a d'autres conditions qui sont là, qui sont revendiquées par ceux-ci. Mais quand nous essayons de voir le syndicat de la santé, ils ont à peu près 9 points. Et sur ces 9 points, c'est 8 qui avaient été validés par l'État. Et ils avaient pratiquement décidé de tout par rapport à tout ça, mais à la dernière minute, l'État refuse. Mais c'est ce qui n'est pas bon. Tu ne peux pas donner ta parole et après dire que non, je ne suis pas d'accord. Mais on est dans quel pays? Ça veut dire qu'on n'a pas un État responsable, on n'a pas un État sérieux. Et on est là aujourd'hui. Ils refusent, mais tout le monde sait comment le pays là fonctionne aujourd'hui. Ces mêmes gens-là qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui. Mais leur train de vie n'a pas changé. D'ailleurs, ça a doublé.
La corruption a augmenté.
Imaginez un pays.
À l'Assie.
Et allez-y voir.
Allez-y voir le président de l'Assemblée nationale, son salaire et ses trucs, ça a augmenté. Le premier ministre pareil, le président de la République pareil, les députés, etc.
Malheureusement, Badou, le temps.
C'est ça le problème.
Je le fais semblant de travailler.
Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On est à la fin justement de cette émission. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Mamadou Ouattara était à la mise en onde. Gagny Kanté à la régie vidéo. Merci à vous également, mes chers invités. Bon week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.